السلام عليك يا فاطمة البتول، السلام عليك يا زين نساء العالمين، السلام عليك يا بنت رسول رب العالمين صلى الله عليك وعليه، السلام عليك يا أم الحسن والحسين، لعن الله أمة غصبتك حقك ومنعتك ما جعل الله لك حلالا، أنا بريء إليك منهم ومن شيعتهم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل البيت الطاهرين المعصومين، وعجل فرجهم ولعن عداهم. Alors bon, je reprends où je me suis interrompu la dernière fois. Donc une petite introduction sur la jurisprudence, ses difficultés, de qui il faut prendre la jurisprudence et la méthodologie que j'utilise pour vous enseigner. Donc déjà, premièrement, la méthodologie, c'est que on prend les différents livres en français, ce qu'on a, Risala, livre de Hadith, etc. Et après, on condense, on simplifie au maximum pour vous donner une base. Parce que si on va trop dans les détails, de toute façon, vous n'allez rien retenir. Donc, on vous donne une base des choses, les solides. Qu'est-ce que tous les chiites du monde, il n'y a pas de divergence. Parce qu'après, si on va dans les détails, là, il y a trop de problèmes, c'est trop compliqué, et même nous, on s'y perd. Donc, on reste sur une base où tout le monde est d'accord. On ne dit pas un tel indice, un tel indice, c'est comme ça. Non, une base commune pour que vous ayez une base solide. Après, vous, votre objectif et votre devoir et votre obligation religieuse, c'est pas parce que Abou Kassim, il a dit, il y a trois eaux, machin, attaque, c'est réglé. Non, on vous apprend une base ici. Après, vous allez rentrer chez vous allez grandir, vous devez aller plus loin. Vous devez apprendre les détails. Vous devez faire des recherches. Ça, c'est pas suffisant. Nous, on vous donne une petite base pour démarrer. Après, vous devez perfectionner. Dans la vie, quand vous avez une question, vous devez ouvrir un livre pour chercher. Vous devez réfléchir. Vous devez aller poser des questions. Vous devez mettre en place des démarches. C'est clair, ce premier point? Vraiment, on vous donne une base commune pour tout le monde, sans aller dans trop de détails, pour que vous puissiez commencer à pratiquer votre vie d'adulte musulman avec une base qui est juste. Le deuxième point, c'est de qui on prend notre religion? De qui? Ça, je vous pose la question. Non. Non. De qui on prend notre religion? La seule source. Dieu, oui. Coran, oui. Prophète, on va aller voir Ali. Et
l'imam Ali.
Les parents? Non, ton père, c'est pas une source de jurisprudence. Les parents, c'est. T'obéis à tes parents quand ils te demandent de faire des choses qui sont sur le chemin de l'islam. Autrement, t'obéis pas à tes parents. Et les imams. Non, les imams, c'est les imams. Je ne parle pas des imams du quartier. Non, c'est une chose. C'est, on s'arrête. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa alihi, et les imams Ahlul Bayt alayhi salam. Une parole de l'imam Ali alayhi salam qui dit à son compagnon, Komail. Komail, c'est un des, grosso modo, dans les meilleurs compagnons de l'imam Ali. C'est celui que l'imam Ali, il lui a offert, offert le doigt Komail qu'on récite tous les jours du jeudi soir. Donc c'était, on va dire, dans le top des compagnons de l'imam Ali alayhi salam. Il lui dit, souvenez-vous de cette phrase, « Ô Komail, prends de nous et tu seras de nous. » Komail, prends de nous et tu seras de nous. Je répète trois fois comme le prophète quand c'est très important. « Ô Komail, prends de nous et tu seras de nous. » Ça veut dire ce qui est pour ta croyance, ta jurisprudence, ta morale, tout. Tu ne prends uniquement de Ahlul Bayt alayhum salam. C'est le seul coffre de trésor, de savoir. Tu ne vas pas regarder ce que dit Abou Foulen, des opposants, des sunnites, les autres, les jurisprudences. Parce que si vous faites de la jurisprudence mélangée avec du sunnisme et du chiisme, c'est la catastrophe. Il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment capital de se référer à Ahlul Bayt alayhim salam. Autrement, vous allez finir par vous laver un pied et puis essuyer l'autre. Il y a tellement de différences dans la jurisprudence entre le sunnisme et puis le chiisme qu'on ne peut pas prendre le savoir de chez eux. Impossible. C'est un égarement et c'est interdit. Il faut que ce soit ça, c'est une base qui doit être claire. Vu qu'on fait tous la même chose, mais que tout est différent. Est-ce que vous avez bien compris ce principe ? Au Komeil, prends de nous et tu seras de nous. C'est tout. Ça, c'est fondamental. Et puis, qu'est-ce que j'avais à vous dire pour un peu de l'introduction, la méthodologie ? Oui, moi, je ne veux pas vous dire, il faut faire comme ce monsieur-là, il faut faire comme ce monsieur-là, il faut faire comme ce monsieur-là. Tel savant a dit non. Pour moi, vous devez avoir une liberté de conscience, de développement, d'état critique et puis de recherche. Donc c'est pas parce que moi j'ai dit que j'ai sorti la fatwa d'un tel ou j'ai dit tel livre ou comme ça que vous devez faire tel livre. Vous comprenez ça ? Le chiisme, il y a 1200 ans d'occultation. L'imam Mehdi, il s'est occulté il y a très très longtemps. Et il y a eu des courants, des idées, des pensées différentes, des choses. 1200 ans d'histoire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le chiisme, comment il a traversé les siècles. Donc, il y a beaucoup d'idées différentes. Il y a beaucoup de positions différentes. Et ce n'est pas à moi de vous imposer une méthodologie, un courant ou quoi que ce soit. Donc on vous donne la base et après c'est à vous d'aller plus loin. Inch'Allah aussi on étudiera en gros l'histoire du chiisme, comment les différents courants du chiisme ont évolué. Ousoulisme, arbarisme, et ça viendra après quand on aura fait l'histoire des imams et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour être clair, pour ne pas faire de propagande pour quelqu'un ou de lutter contre quelqu'un. Donc, premier point de la jurisprudence, c'est l'eau. Chose vitale, principe vital, qu'on ne peut pas s'en passer. Donc, Allah, dans le Coran, il dit « A'udhu billahi samia al-alim, les shaitan al-alim al-rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nous fîmes descendre du ciel une eau pure et purifiante. » Donc, eau pure et purifiante. L'imam Sadiq alayhi salam, toute eau est pure à moins qu'on ne sache qu'elle est impure. En voyant de l'eau, le commandeur des croyants, l'imam Ali alayhi salam, disait « Louange Allah qui a fait de l'eau une matière purifiante, elle n'a pas fait une matière impure. » Donc, l'eau est pure et purifiante. Première règle, toute eau est pure à moins qu'on ait la preuve qu'elle soit impure. C'est une règle de jurisprudence. Tout est pur à moins qu'on ait la preuve que ça soit impur. C'est pour tout. Tout ce que vous touchez, ça c'est pur, ça c'est pur, ça c'est pur. Tout, ici, tout est pur. À moins que tu aies la preuve qu'il y a un bébé qui a fait pipi ici ou qu'il y a du sang qui est tombé ici. Tant qu'on n'a pas la preuve d'une chose, tout est pur. Ça, c'est un des principaux pires que Shaitan, en attendant aller, il peut faire tomber les gens dans la folie des impuretés. De croire que ça c'est impur, de douter et de toutes ces choses. Donc tout est pur tant qu'on n'a pas la preuve. L'eau est pure et purifiante. Il y a deux types de purification. Est-ce que vous avez une idée ? C'est facile. Le houdou, c'est un des types de purification, mais ça ne s'appelle pas le houdou. Et il y a un autre type de purification. Non, mais ça c'est la même catégorie. Ça c'est, on va dire, c'est la même catégorie. Enfin, c'est une...
La douche.
Non. Ça c'est tout la même catégorie. Non, il y a la catégorie des impuretés originelles, comme ils appellent ça les juristes, tout ce qui est urine, chien, cochon, matière fécale, etc. Quoi?
Dromadaire.
Non, le dromadaire, il est pur, le dromadaire. Tout ce qui est les impuretés physiques. Et il y a l'impureté, comme dans la catégorie roussoul, tayamoum et tout ça, c'est l'impureté spirituelle. Donc l'eau purifie les deux. C'est pour ça qu'on fait le roussoul et puis les ablutions, c'est une impureté spirituelle. Donc dans l'eau, pour faire simple et rapide, on va dire il y a deux groupes d'eau. Le groupe A et le groupe B. Le groupe 1, c'est l'eau non courante. Donc tout ce qui est, par exemple, un bassin, un seau, une bouteille, une mare où il n'y a pas de courant, tous les récipients où l'eau est dedans et elle ne bouge pas. Elle n'y a pas du mouvement, qu'elle coule, qu'elle revient, etc. Donc par exemple, si tu remplis, tu vas à la fontaine, tu remplis un bidon, tu poses le bidon, la fontaine était de l'eau courante et le bidon est devenu de l'eau non courante. Non, ça n'a rien à voir, c'est l'eau qui doit bouger, c'est pas la bouteille.
Elle doit fonctionner, l'eau, elle doit être en cours.
Donc, c'est le premier type d'eau, l'eau non courante stagnante. Et dans cette catégorie d'eau stagnante, il y a l'eau de moins d'un corps et l'eau de plus d'un corps. Il y a des divergences là-dessus, mais grosso modo, pour arrondir, c'est 400 litres. Et pour faire encore plus simple, vous imaginez que ça, c'est à peu près 1 mètre. 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, c'est 1000 litres. Donc vous imaginez le truc coupé en deux, et ça vous donne la dimension visuelle de plus ou moins qu'est-ce qu'est un corps. Donc c'est, on va dire, un demi mètre cube, un petit peu moins, 400 litres. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des eaux courantes. Eaux courantes, rivière, lavabo, enfin robinet, fontaine, source, lac, rivière et tout ça. Il y a l'eau de pluie, elle est considérée comme une eau courante, et l'eau du puits. Parce qu'en général, l'eau du puits vient toujours du fond de la terre, des nappes phréatiques et puis des choses comme ça. Donc c'est de l'eau courante. La règle qui est importante à savoir, c'est que si on a une petite quantité d'eau stagnante ou dedans, par exemple, on a une bouteille, une petite assiette ou un petit bidon ou un truc comme ça, où là, il y a un chien qui vient boire dedans, ou une goutte de sang qui tombe dedans, une goutte d'urine ou n'importe quoi, une impureté, qu'on verra toutes les impuretés après, l'eau de moins d'un corps devient impure. Tu ne peux plus la boire. Tu peux plus faire les ablutions avec. Donc en gros, tu peux donner à boire aux plantes avec. Ou à des... voilà. Donc ça, c'est la petite quantité d'eau, impureté qui tombe dedans, où cette quantité d'eau, elle touche une impureté, l'eau est impure.
Mais si on ne sait pas qu'elle a touché, alors que c'est vraiment d'accord, et on ne sait pas qu'elle a touché.
J'ai dit quoi au tout début? Tout est pur tant que tu n'as pas la preuve de son impureté. Règle de base. Donc si toi tu as mis sur ta terrasse un bidon d'eau que tu fais le houdou avec, et tu sais pas qu'il y a un chien qui est passé dedans pour boire dedans avec un but dedans, bah, elle restera pure, t'as pas la preuve. T'as pas besoin de faire analyser l'eau en laboratoire. Tant que t'as pas la preuve.
Après si quelqu'un il vient et te dit j'ai vu un chien aller chez dedans, bah c'est fini, t'as la preuve. Là.
Ouais. Par contre, l'eau de plus d'un corps qui est stagnante. S'il y a une goutte d'urine qui tombe dedans, une goutte de sang, une impureté qui la touche, elle reste pure, à moins que son odeur, son goût et sa couleur y changent. Donc ça veut dire si dans une grande fontaine, il y a une goutte de sang ou un chien ou un truc comme ça, et puis que l'eau reste parfaitement blanche, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de goût, Bah c'est bon. Par contre, s'il y a quelqu'un qui je sais pas, où il égorge un mouton dedans, puis ça l'a rempli de sang, et puis qu'elle devient rouge, voilà, bah elle a changé de goût, elle a changé de couleur, et puis elle a changé le... Oui.
C'est combien le maximum de gouttes, par exemple? Parce que là, vous dites une goutte, mais... Il y aura plus qu'une goutte, par exemple.
C'est ce qu'il t'explique. Il dit qu'elle n'a pas changé de couleur, qu'elle n'a pas changé d'odeur, qu'elle n'a pas changé de goût. Elle reste pure. Ça peut être.
C'est toi qui décides. Voir l'eau. S'il a changé le couleur, changé l'odeur, le goût. À ce moment-là, tu dis ça impur.
Je vais donner un exemple réel. Après, tu poses ta question.
L'eau du lac, du coup, elle est un peu verte et tout. Mais...
Non, mais ça, c'est des algues, c'est des trucs. C'est naturel, ça.
C'est de l'eau courante.
Ça veut dire qu'il faudrait égorger 5 millions de vaches, puis tout renverser en même temps dans le lac pour qu'elle change de couleur. C'est irréalisable. Mais un exemple tout bête. Vous avez un bébé. Vous remplissez la baignoire. C'est de l'eau de plus d'un corps. Il y a 400 litres, une grande baignoire. Ou une piscine qui est sur le balcon. Vous enlevez le pampers du bébé. Il a fait pipi sur lui et il a un petit peu d'urine sur son ici, dans sa zone. Vous le posez dans la piscine qui fait plus d'un corps avec ses manchons et il est en train de jouer. Là, il y a tellement peu d'urine qui est sur lui que l'eau de la piscine va rester pure. Mais si tout d'un coup, il fait un énorme pipi et puis vous voyez traîner jaune dans la piscine, ben là, vous pouvez déduire que l'eau est devenue impure. Vous voyez le truc? C'est-à-dire que si tu poses ton bébé dans la piscine et que tu as des gouttes d'eau qui jiguent dessus, voilà, c'est pas un problème, tu peux prier après. Mais si l'eau, il a fait pipi et puis tu vois et tout ça, voilà, tu sais que l'eau est devenue impure. Donc si quand tu vides la piscine, tu as des gouttes d'eau qui jiguent dessus, tu devras purifier tes vêtements. Oui?
C'est toute l'eau qui est impure après ou tu peux aller sur une partie où il n'y a pas?
Non, c'est tout. C'est un ensemble total. Il n'y a pas que la moitié. Parce que tu ne peux pas enlever la moitié d'un récipient d'eau.
Sauf si c'est une petite partie, le cœur, et l'autre partie, elle est intacte.
Ouais, mais ça se mélange. Là, tu vas trop loin. C'est pas comme si il y a une goutte, une impureté de je sais pas, une goutte de sang qui tombe sur un gâteau. Bah, tu coupes la partie du gâteau, mais l'eau, c'est...
Faut pas compliquer les choses.
Ouais.
Par exemple, le bébé il fait pipi dans la piscine. Et puis genre c'est d'un côté, on peut vite prendre de l'eau juste pour faire le boudou, juste un peu plus à côté.
C'est la même question. Faut pas compliquer les choses.
Compliquer les choses comme ça. Facile.
Faut pas compliquer les choses.
Mais est-ce que t'as vraiment besoin de la piscine pour faire le boudou? T'as pas un robinet chez toi, tu rentres à la maison, tu fais le boudou.
C'est des conditions. Il y a que cette condition, alors c'est fini.
Alors écoute, ça c'est juste qu'est-ce que tu dis, c'est que dans un endroit, il n'y a pas d'eau. Il n'y a que cette eau-là. Tu as une fontaine, par exemple, dans un parc. Et cette fontaine, tu n'as pas d'autre. Bon. C'est là que tu commences à te poser la question, est-ce qu'elle est propre, cette eau, elle est pure parce qu'il y a mon fils qui a nagé dedans ou comme ça. Mais quand tu es chez toi à la maison, bah, tu n'es pas obligé d'utiliser cette eau. Tu vas au robinet, tu vas faire le rondeau et puis c'est fini.
Vous avez compris le principe de plus d'un corps et de moins d'un corps?
Avec le sable.
Ça viendra plus tard. L'eau courante,
mais c'est juste pas.
L'eau de pluie. Ce qui est important de savoir avec l'eau de pluie, c'est que dès qu'il pleut, tout devient pur. Et il faut qu'il y ait plu, pas juste deux gouttes. Mais quand on va dire, voilà, il a plu. C'est-à-dire que t'es sorti, t'as été mouillé quand même. C'est pas une petite pluie de rien du tout. C'est-à-dire que quand il pleut, tout est pur. Toute la rue est pure, partout c'est pur. Donc c'est-à-dire que quand il pleut, et puis que tu marches dans la rue, et puis que t'as de l'eau qui te mouille ton pantalon, des trucs comme ça, tout est pur.
Du coup, on a le droit de lécher le sol.
L'eau du puits, bah l'eau du puits, on n'a pas beaucoup de puits ici. Mais les règles sont à peu près la même chose avec l'eau que l'eau de plus d'un corps. C'est-à-dire que si tu as un animal mort qui tombe dans un puits, et ben après, ben il faut enlever un certain nombre d'eau dans l'eau du puits, etc. Mais oh, c'est pas notre, c'est pas, ça nous est pas très utile, l'eau du puits. Après, encore quelques trucs qui sont importants.
Est-ce que pur, c'est différent de propre?
Oui. C'est totalement différent. Parce que tu peux avoir un pantalon plein de terre. Voilà. C'est pur.
Tu peux avoir un point des habits tachés. Ben, voilà.
De la peinture, n'importe quelle substance qui est pure. Tu peux être tout sale de choses pures, mais tu restes pur.
Et la peinture, c'est
pur. C'est une bonne question. Il faut différencier entre le propre et le pur.
Bonne question. Question intelligente.
Même,
ça fait plaisir.
Même l'eau. Même l'eau. On peut dire l'eau, elle est pure, mais il y a beaucoup de bactéries à l'intérieur. Ça n'a rien à voir. La pureté,
c'est comme il dit justement avant Ali, quand l'eau, elle est verte, les algues, bah, l'eau, elle est pure, mais elle n'est pas propre.
Pas propre. On ne peut pas le boire. Mais on peut le faire le TG2.
Du coup, les algues, elles sont pas propres.
Pas propre, oui, mais tu peux pas boire dedans parce que c'est pas même pour ta santé, mais tu peux faire l'eau d'eau.
Pourquoi il y a du monde et du monde des algues?
Les sushis. Ben ça, après, tu nettoies.
Les algues, c'est du végétal, c'est végétarien. Non, c'est pas la question, mais c'est végétarien, tu peux manger des algues.
Continue.
Après, bah, j'ai un dernier point, parce qu'après, il y a beaucoup de détails de qui sont vraiment techniques. Il y a l'eau mélangée. Est-ce que je peux faire de le houdou avec de l'eau où il y a eu une autre substance avec de l'eau de rose ou de l'eau du sirop ou de l'eau mélangée?
Non, il faut qu'elle soit intacte.
Ouais, il faut que ce soit de l'eau 100% eau. Tu ne peux pas faire ton houdou avec une eau mélangée.
L'eau avec de la terre en plus.
L'eau avec de la terre, si c'est de la boue compacte, non, ça va pas. Mais je veux dire, si tu récoltes de la terre et puis que tu laisses qu'il y ait un peu de sable au fond de l'eau et puis qu'il y a un peu de très léger, ça, c'est pas grave.
La mer, il y a du sable partout, mais tu peux faire l'eau, c'est pur. Okay. Allez, allez.
Par contre, l'eau mélangée est pure, mais on peut pas faire le houdou avec. Après, voilà, comme j'ai dit, c'est pour faire le plus simple possible. J'ai plus grand chose à dire, quoi. Mais ça veut dire que pour votre vie de tous les jours, ça c'est important de savoir quand on est dehors. Et puis c'est important de connaître ça pour après la purification, parce que avec de l'eau de moins d'un corps ou avec de l'eau courante, tu vas pas purifier un slip ou un pantalon, la même chose. Ça différencie après dans la purification. Donc voilà pour l'eau. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.